RCF.
Le Dieu des chrétiens est un Dieu à la fois Père, Fils et Esprit. Cette dimension trinitaire signe la spécificité du christianisme. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus, le Fils, qui vient pour nous révéler le Père. L'Esprit-Saint aussi est présent. Les évangélistes en font mention depuis la scène de l'Annonciation jusqu'à la croix, en passant par le baptême du Christ ou encore la tentation au désert. L'Esprit, nous dit saint Jean, souffle où il veut. Nous ne savons pas d'où il vient ni où il va. Alors que pouvons-nous dire de lui ? Pour nous éclairer sur le sujet, je reçois cette semaine François Lestang. Bonjour.
Bonjour Béatrice.
Vous êtes bibliste, prêtre de la communauté du Chemin Neuf, communauté catholique à vocation écuménique. Votre dernier livre, paru chez Nouvelle Cité, s'intitule « Ce que dit la Bible sur le champ ». Le mot esprit, dans notre imaginaire, renvoie à quelque chose d'évanescent, de brumeux, de fumeux. Est-ce que l'Esprit Saint appartient à ce registre ?
C'est vraiment un des grands problèmes que nous avons quand nous parlons d'esprit. Parce que de fait, nous l'opposons, dans notre culture occidentale, à ce qui est du matériel. Donc il y aurait le spirituel et le matériel. Et c'est sûr que l'expérience biblique de l'esprit, et l'expérience, je crois, de la vie de prière, c'est que au contraire, plus on accueille ce que nous appelons le souffle de Dieu, pour pas dire l'esprit, mais c'est le même mot qui serait derrière, que ce soit en grec ou en hébreu, on aurait cette idée d'un vent, d'un souffle, d'une respiration, de quelque chose qui est vivant. Plus on accueille ça, plus on est renvoyé à une dimension corporelle. Et c'est assez impressionnant de voir que l'esprit de Dieu est ce qui permet de faire corps. Parce que vous avez mentionné, par exemple, l'Annonciation. L'Annonciation, Marie entend un message, et ce message lui annonce que l'Esprit-Saint viendra sur elle et il va y avoir une naissance, il va y avoir un corps qui va prendre vie dans le sein de Marie. Et on a envie de dire que la Pentecôte que nous fêterons d'ici quelques jours, c'est aussi cette dimension-là de l'Esprit qui vient, mais qui vient non pas pour nous entraîner vers un ciel abstrait où on serait dans les nuages, mais au contraire, qui nous envoie les uns vers les autres, qui nous soude les uns aux autres, qui nous unit les uns aux autres. Donc il y a vraiment ce lien entre l'Esprit et le corps.
Donc la vocation du souffle, c'est de s'incarner finalement, c'est de prendre chair.
Prendre chair en nous et nous aider à être davantage corps. J'ai eu la chance d'enseigner plusieurs années sur l'Esprit-Saint dans la théologie de Saint-Paul ou l'Esprit-Saint dans les Actes des Apôtres. Et une chose qui m'a le plus frappé quand on regarde l'Esprit-Saint chez Saint-Paul, c'est à quel point pour lui, la vraie question, c'est est-ce que ça me met en relation ? Ça me met en relation à autrui, en relation à Dieu. C'est pas, est-ce que ça m'élève quelque part dans une abstraction, dans les nuages, dans ce vent, cet impalpable, cet immatériel? Mais au contraire, le vrai signe pour Paul qu'on a reçu l'Esprit Saint, c'est qu'on est capable d'aimer concrètement les autres, et j'irais même plus, d'aimer comme Jésus. Et c'est là que c'est important, parce que l'Esprit dont nous parlons n'est pas seulement une capacité d'amour, mais c'est bien celle de Jésus lui-même. Il y a un lien entre l'Esprit Saint et Jésus.
Dans la Bible, au tout départ, il est présent cet esprit, le souffle qui plane à la surface des eaux au moment de la création. Donc ça n'arrive pas simplement avec l'Évangile, les Évangiles. C'est là dès le début de la création.
Oui, tout à fait. C'est vrai que dès le chapitre 1er de la Bible, on entend que dans le tohu-bohu, pour organiser le monde, il y a cet esprit de Dieu, ce Ruach Elohim. Ruach, c'est le mot hébreu qui veut dire souffle ou esprit, qui est là et qui me rachefet, qui plane sur les eaux avant même que Dieu parle. Quelque chose comme une précédence même de l'esprit par rapport au verbe. Et on pourrait dire, tiens, c'est étonnant, comme pour Marie, l'esprit est là avant que le verbe ne vienne et que ça prenne une forme. De même, là, l'esprit est présent avant même que la création prenne forme. Et ensuite, Dieu parle et cela advient. Et on voit que dans l'Ancien Testament, on a donc ce mot d'esprit, ce mot hébreu ruach, qui veut dire vent, il est employé presque 400 fois dans la Bible, et à peu près, il y a trois tiers, c'est-à-dire qu'il y a un tiers des fois où ça concerne Dieu, un tiers des fois où ça concerne plutôt une dimension de type cosmologique, donc un souffle, un vent, un ouragan, une puissance, et puis un tiers des fois où ça concerne plutôt une dimension du souffle de l'homme ou du souffle de l'animal. On parle aussi du souffle qui est dans l'humain, qui est le souffle. Alors, il y a des fois, c'est la puissance de Dieu, il y a des fois, c'est la puissance du vent. Et donc, c'est intéressant, c'est une des images qu'on utilise pour parler de cette force-là. Et c'est sûr que dans l'Ancien Testament, c'est très, très progressivement qu'on va commencer à rendre individuel ou identifiable le souffle de Dieu. Au départ, on est plus dans une force, dans deux dimensions très intéressantes, une vers le feu et l'autre vers l'eau. Pourquoi ça? Parce que dans la cosmologie et dans la météorologie d'Israël, en fait, il y a deux grands vents. Il y a un vent qui vient du sud et qui vient du désert, et il est brûlant. Et donc, on va avoir l'idée d'un souffle de feu. Souffle de feu qui vient embraser, qui vient mettre le feu, qui vient dessécher aussi. Et donc, dessécher, ça peut évoquer éventuellement le jugement. Ce souffle, il vient mettre à nu, il vient sortir de soi et mettre à vif ce qu'il en est. Donc, une dimension, par la météorologie, d'un souffle, d'un vent brûlant, le vent du désert. Et puis, il y a un autre souffle, c'est le souffle qui vient plutôt de la mer, plutôt du nord, pour le coup, ou de l'ouest, et qui apporte la vie. Et donc, on a un souffle qui est cette eau. Une eau qui vient bienfaisante et qui va donner tout ce qui est de la végétation, de la vie, un esprit qui vient nous baigner, d'où l'idée d'une effusion, d'une douche d'esprit ou d'un bain dans l'esprit.
François Lestan, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu trinitaire, donc Père, Fils et Esprit. Alors j'aimerais qu'on revienne avec vous sur cette dimension trinitaire. Qu'est-ce que ça signifie?
C'est ce mystère étonnant et dans lequel nos mots sont toujours en deçà de ce qu'on voudrait. Parce que quand je nomme Père, Fils et Esprit, j'ai nommé trois. Et comme disait Augustin, ils sont trois, mais trois, comment les nommer? Et on va avoir tout ce long parcours théologique pour arriver à comprendre qu'il s'agit d'un jeu de relations, que c'est un seul Dieu. Et ça, c'est un peu le risque souvent quand on parle de la Trinité, c'est de faire trois dieux. On aurait un Dieu Père, qui serait celui qui fait la création, un Dieu Fils, qui vient mourir sur la croix, et un Dieu Esprit, qui viendrait nous rejoindre aujourd'hui. Alors que c'est le même Dieu qui, dès l'origine, est présent par sa parole et par son souffle, mais il faut aussi trouver comment les dire en respectant les différences. Alors pour nous, c'est facile de penser père et fils, parce que notre expérience humaine, ces mots-là, nous renvoient à du vocabulaire qu'on connaît bien dans nos expériences humaines. Donc penser le père, bon, et bien sûr il faut oublier que c'est un vieillard barbu avec une barbe blanche, penser un fils, mais penser le souffle, comment le penser? Et sans que ce soit la même chose que Jésus. C'est vrai qu'il y a un piège de dire, bon, Jésus est dans mon cœur, l'esprit est dans mon cœur, en quoi est-ce que c'est deux choses différentes? Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de ce que Jésus a vécu comme présence de Dieu sur la terre en un moment donné et ce que l'Esprit vient faire en moi de la part de Jésus. Donc il y a quelque chose où c'est pas Jésus qui est l'Esprit, même s'il y a des éléments qui disent que Dieu est Esprit, que Jésus envoie son Esprit, on parle de l'Esprit de Jésus. Donc je vais toujours être en train de dire, ils sont trois, mais c'est un seul Dieu. Et alors il y a en théologie un grand adage, une manière de dire qui dit, ce que fait la Trinité dans le monde, est unitaire. Donc c'est toujours et le Père, et le Fils, et l'Esprit.
Mais ça veut dire que quand je prie le Père, je prie aussi le Fils et l'Esprit?
Eh bien, oui et non. C'est-à-dire, prier, c'est toujours tourner vers l'unique Dieu, et en regardant Dieu, je peux de fait être plus attentive à ce qui est de l'ordre de cet engendrement qui est en Dieu, quelque chose qui est l'ordre du Père, ou bien, regardez plutôt cette mission qui est donnée d'aller présenter la bonne nouvelle aux hommes, et là, on serait du côté de Jésus, et cette offrande de soi jusqu'à la croix, ou bien, regardez ce mouvement d'amour, ce courant de communion, ce souffle qui va, cette respiration partagée du Père et du Fils, qui est du côté du Saint-Esprit. Mais quand je dis ça, le risque, il est l'autre côté. Il y a un risque, donc c'est ce qu'on appellerait le trithéisme, donc d'avoir trois dieux. L'autre risque, c'est ce qu'on appelle le modalisme, c'est-à-dire finalement c'est un seul objet dont on verrait trois côtés. Et il faut toujours naviguer entre un seul Dieu qui a de fait une manière de se révéler qui est exemplaire en Jésus, qui est manifesté grâce à l'Esprit Saint et qui vient nous rejoindre dans l'Esprit Saint et qui est de la part du Père sans les séparer. Et c'est toujours ça qui est difficile.
Alors, revenons à l'esprit quand même. Ça serait quoi le rôle de l'esprit? On a pu dire que c'était le baiser entre le Père et le Fils.
Oui, alors ça, saint Bernard de Clairvaux, en particulier, quand il commente le Cantique des Cantiques, va déployer ça quand il dit qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Il dit « ce baiser que je demande, que l'épouse demande, c'est de fait cette union des souffles ». Donc, quand un homme embrasse une femme, il y a cet échange de souffles. Et là, l'idée que ce qui est dit de ce mot même, ce mot d'esprit, donc esprit, souffle, vent, quelque chose de l'ordre d'une communication de vie. Parce qu'il faut entendre aussi, pas seulement vent, mais force. C'est vrai que l'idée du vent dans la tradition juive, c'est quelque chose qui n'est pas seulement de la brise légère, mais aussi de cette puissance qui peut, de fait, être un ouragan. Donc on a une force vitale, je crois qu'il y a cette communication d'une force vitale. Et en même temps, ça n'est ni le Père ni le Fils, c'est une autre réalité. C'est pour ça qu'on a, dans la théologie trinitaire, un mot pour dire que le Fils est engendré, et puis pour l'Esprit, on dit qu'il est spiré. Et donc ça, l'esprit qui soit spiré, en fait, c'est du latin. Le spiritus est spiré, donc on fait une redondance, mais pour essayer de dire, ce qui se joue là n'est pas la même chose que ce qui se joue entre père et fils. Et donc, on est dans une altérité. Et je me souviens d'un théologien jésuite, Gustave Martelet, qui disait, le Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet d'aller vers l'autre et ce qui, en même temps, est toujours autre. Alors, il avait une formulation un peu curieuse, il disait, c'est l'hypostase de l'altérité absolue. Mais ce que j'entends, moi, c'est il y a de la part de Dieu une vie en lui qui n'est pas seulement épuisable dans le fait d'être donation du Père ou réception du Fils, mais qui est aussi dans cette joie de l'échange. Voilà, on n'est pas seulement toute donation ou toute réception, mais il y a aussi cette vie dans ce mouvement de vie. Et c'est ça qui nous est communiqué pour rentrer, nous aussi, en mouvement dans une donation, en mouvement avec l'Esprit-Saint pour aimer comme Jésus, pour aimer comme le Père, pour aimer comme Dieu.
Série d'entretiens avec vous, François Lestang, au sujet de l'Esprit-Saint, l'une des personnes au cœur de la Trinité chrétienne. Nous avons dit que c'était mystérieux, trois personnes en un seul Dieu. Alors, dans l'Évangile, on voit bien qu'il intervient, cet esprit, il s'incarne à travers différentes scènes. On n'a pas le temps de raconter ici, mais l'idée, c'est de le recevoir, c'est de l'accueillir.
Recevoir en nous cette vie qui est celle de Jésus. Alors, quand on dit « il s'incarne », je ne suis pas absolument certain que ce soit lui qui s'incarne. C'est le Verbe, c'est le Fils qui s'incarne. Mais il ne s'incarnerait pas sans le don de l'Esprit-Saint, sans la puissance de l'Esprit-Saint, sans la force de l'Esprit-Saint. Et c'est vrai qu'un des mouvements importants du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien, c'est que dans l'Ancien Testament, donc on a beaucoup vu le souffle de Dieu comme une force qui rend les hommes capables de faire telle ou telle chose extraordinaire. Je pense à Samson. Mais dans le Nouveau Testament, il est une force. Et de plus en plus, il n'est pas seulement une force, mais il est cette personne. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir arriver à penser la Trinité avec ces trois dimensions de Dieu, ces trois personnes en Dieu, ces trois hypostases. Encore une fois, les mots nous échappent, mais pour dire que l'Esprit-Saint est ce qui permet que Jésus s'incarne, permet que le Verbe s'incarne. Et donc, ce n'est pas lui qui s'incarne, mais c'est lui qui permet que Jésus s'incarne. Et pour nous, l'enjeu, c'est bien de le recevoir. Je pense à un saint orthodoxe, Saint Séraphim de Tsarov, qui disait « Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. » Et là, on peut dire « Mais quand même, je crois que je l'ai déjà reçu, le Saint-Esprit. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette acquisition du Saint-Esprit ?
Quand vous dites « Je crois que j'ai déjà reçu », vous faites allusion à ceux qui ont reçu le baptême ?
Ben oui, tout à fait, puisque la majeure partie des chrétiens de nos églises vivent un rite important d'intégration à l'Église, d'intégration à Dieu lui-même, qui s'appelle, en fait, cette plonger, puisque le mot grec « baptisma » veut dire être plongé, plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Au baptême, un chrétien reçoit tout ce dont il a besoin pour vivre la vie même de Jésus. Or, ça suppose de vivre comme Jésus de l'Esprit.
Oui, mais alors, justement, un catéchumène qui rentre pour être baptisé, au moment où il ressort, apparemment, rien n'a changé. Il a le même visage, il a la même parole, la même manière de vivre. Qu'est-ce qui a changé, puisqu'on dit qu'il a reçu l'Esprit-Saint ?
Alors, j'ai envie de dire, ça, on va vérifier au fruit. C'est-à-dire que, de fait, c'est la manière dont il va ensuite voir déployer sa relation à Jésus, son imitation de Jésus, c'est-à-dire ce qui le rend capable d'être dans ce chemin d'amour qui est de livraison de soi, donc de passage par la croix aussi. Et alors, ce qui est très impressionnant pour moi aussi, par rapport aux catéchumènes, qui sont baptisés, c'est ce qui se joue dans l'évangile au moment du baptême de Jésus. Parce que donc Jésus vient, bon, et d'après la révélation, bien sûr, il est déjà le Fils de Dieu depuis sa conception dans le sein de Marie, et pourtant, il y a quelque chose qui se passe de particulier au baptême, puisqu'il voit l'Esprit Saint descendre sur lui, cette voix qui lui dit « Tu es mon Fils ». Et c'est vrai que le catéchumène entend ça aussi au baptême, cette adoption filiale, cette réception d'une relation. On est comme Jésus mis en relation avec le Père. On pourrait dire c'est bon, c'est fait. Sauf que juste après le baptême, et ça je crois que ça vaut la peine de le rappeler pour le catéchumène, l'Esprit Saint pousse Jésus à l'épreuve pour vérifier, pour éprouver ce qu'il a reçu. Et donc on a ces 40 jours de tentation. Et je me souviens de beaucoup de jeunes que j'ai pu rencontrer et qui disent « Mais comment ça se fait? J'ai donné ma vie au Seigneur et maintenant, ben c'est difficile. » Je veux dire « Ben oui. » Et on trouve ça d'ailleurs dans la Bible. « Si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. » Or, l'Esprit Saint nous rend capable d'affronter l'épreuve qu'avant on ne pouvait pas vivre, mais il nous pousse à ça pour nous former, nous éduquer et nous mettre en relation. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir l'Esprit Saint qui pousse au désir. Donc après un moment très fort d'intimité, comme la célébration d'un baptême, on est avec la famille, on a tous ces rites qui nous sont donnés. Parfois, après, il peut y avoir comme un grand vide. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour du baptême? Et je crois que précisément, c'est là qu'on entend et qu'on peut recevoir que l'Esprit Saint qui m'a été donné vient en moi pour me pousser à éprouver, dans toutes sortes de dimensions, ce qu'il en est de cette vie chrétienne.
François Lestang, le cas du catéchumène est quand même particulier parce que beaucoup d'entre nous ont été baptisés tout enfant, nourrissons, donc il n'y a absolument pas de souvenir de ce qui s'est passé. On dit pourtant qu'il y a une grâce baptismale qui est là et qui restera toute notre vie. Alors qu'est-ce qui se joue justement pour ceux qui n'ont pas conscience de cette vie qui a été donnée une fois pour toutes, comme une graine? Il faut retrouver un peu, comprendre ce qui s'est passé?
Je crois qu'on sait bien, quand on baptise un enfant, qu'il y a un engagement des parents, parrain, marraine, à une catéchèse. Et je crois que c'est très important de se rappeler que l'enfant de lui-même, s'il est baptisé et qu'on lui dit rien de Jésus, eh ben, ce qui est en lui va rester latent, va pas pouvoir se déployer, parce que il lui manque en effet les cadres pour comprendre et l'histoire pour comprendre ce qu'il vit. C'est-à-dire pour interpréter ce qui le traverse, ben, il a pas les éléments nécessaires. Donc, s'il y a pas de catéchèse, de fait, pour beaucoup de baptisés enfants qui sont pas du tout après dans un contexte ecclésial où ils entendent jamais l'évangile, eh ben, ça semble être quelque chose qui est comme ne portant pas de fruits, comme une graine qui est posée là, qui n'a jamais été arrosée.
Oui, mais certains ont eu leur catéchèse pendant des années, ont tout, voilà, j'allais dire oublié. Parce que là, vous avez, c'est idéal ce que vous décrivez, mais beaucoup de gens ont été à la catéchèse. Mm-hmm. Alors. Avec la vie qui, voilà, les choses peuvent se dissoudre aussi.
Et dans mon cas de figure personnelle, moi, j'étais baptisé, pas confirmé, fait la profession de foi, et puis après, j'ai quitté l'église. J'avais 11 ou 12 ans, et donc, j'ai arrêté de fréquenter l'église. Donc là, de fait, comme baptisé, je suis un bon exemple de beaucoup de baptisés français qui arrêtent au bout d'un certain temps de catéchèse. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, pour moi, cette rencontre avec une communauté, celle dans laquelle je suis rentré, à côté du chemin neuf, avec cette affirmation de rencontrer Jésus, donner sa vie à Jésus, et avec ce qu'on appelle soit l'effusion de l'Esprit, soit chez nous plutôt le baptême dans l'Esprit Saint, qui fait parfois doublon avec la confirmation. Et c'est vrai que pour beaucoup, ce temps de confirmation, ou ce temps, alors il faudra qu'on en reparle un peu, d'effusion de l'Esprit, de baptême dans l'Esprit Saint, est ce moment où on va pouvoir dire comme adulte, ce Jésus, c'est vraiment celui qui donne sens à ma vie, ce chemin-là, ce chemin qui passe par la croix, ce chemin qui passe par cette relation extraordinaire au Père, c'est ça que je veux vivre et j'ai besoin de fait d'un déploiement en moi de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est intéressant de penser que Jésus arrive au baptême déjà plein d'Esprit Saint. Tu vois, il est déjà le Fils de Dieu. Et pourtant, il reçoit au baptême une parole comme quelque chose qui le met en mission. Et c'est, je crois que c'est pour ça que assez tôt dans l'Église, dès le 3e ou 4e siècle, on a mis en place la confirmation. Alors on dirait, mais certains sont baptisés et confirmés, enfants, et ils n'ont pas de souvenir non plus. Oui, c'est vrai, et ça relève aussi de notre propre liberté, notre propre capacité de résister à Dieu. Je crois qu'elle est là. L'Esprit Saint nous invite, l'Esprit Saint nous stimule, l'Esprit Saint nous propose beaucoup de choses, mais il ne peut jamais nous forcer. Je me souviens de Thomas Roberts, un prédicateur évangélique, qui disait, même si le prédicateur défonce la porte, le Saint-Esprit reste dehors tant qu'on n'a pas dit « Viens, Esprit Saint ».
Donc, ce que vous décrivez, c'est que la parole « Tu es mon Fils bien-aimé » reçue par Jésus au baptême, tous nous pouvons la recevoir. Après, il y a un temps où on pourra s'ouvrir et d'autres où on ne pourra pas s'ouvrir. C'est un peu mystérieux.
Oui, de fait, c'est un peu mystérieux. Ça relève de la grâce, ça relève de ce discours entre grâce et liberté sur lequel on est toujours en train de dire ben, « Tout vient de Dieu et en même temps, l'homme est vraiment libre. » Et tenir et l'un et l'autre, c'est toute la dignité, je crois, de la vie chrétienne, que de savoir que ce que Dieu nous fait est, c'est que plus on accueille Dieu, plus on est libre. Alors que dans une logique comme celle de Nietzsche, donc ce philosophe allemand du 19e siècle, si j'accueille Dieu, je ne suis plus libre. Il y aurait une concurrence d'autorité. Alors que ce qu'on voit dans la vie de tous les saints, c'est que plus on accueille donc la vie de Dieu, et là on rejoint de nouveau l'Esprit Saint, plus au contraire on est conduit dans la liberté, et une liberté qui est appelée elle-même à se livrer. Et donc c'est ce paradoxe de la vie chrétienne où plus on est libre, plus on est livré, plus on est obéissant, plus on est libre, plus on est présent à Dieu, plus on est soi-même.
Paradoxe, mais qu'on retrouve tout au long de l'évangile, qui perd sa vie, la gagne, et on pourrait citer beaucoup de choses. Sur l'effusion de l'esprit, deux mots, parce que c'est pas forcément connu, c'est vécu beaucoup dans les communautés charismatiques.
L'enjeu, c'est de dire, il y a un moment dans ma vie où j'accueille définitivement Jésus, où je lui dis oui. Il y a un moment où je peux dire, ce jour-là, pour moi c'était le 9 avril 88, j'ai vraiment dit, me voilà, j'ouvre les mains et je veux accepter de te recevoir complètement avec tout ce que je suis, me livrer complètement comme tu t'es livré complètement. Et ça passe par cette plongée dans la vie de Dieu, dans une vie qui est de relation au Père, une vie qui est d'offrande de soi comme Jésus, une vie qui est aussi pleine de déploiement, pleine de fruits, pleine de surprises, pleine de charisme, hein, parce qu'on parle du renouveau charismatique. Donc on a dans le renouveau charismatique, soit on parlera d'effusion de l'esprit, d'une préparation à l'effusion, soit on parlera de baptême dans l'Esprit Saint, l'enjeu étant toujours de dire j'ai besoin pour vivre pleinement ma vocation, de pas seulement avoir entendu parler de Jésus, mais de le laisser vivre en moi. Or, ce qui va le faire vivre en moi, c'est précisément cet esprit, ce souffle, cet amour du Père et du Fils. Et où l'Esprit Saint vient nous formuler, reformer, nous transformer, oui, nous façonner à l'image du Fils.
Nous parlons cette semaine de l'Esprit-Saint avec vous, François Lestang. Je rappelle que vous êtes bibliste, prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Nous disions que l'Esprit qui est Dieu frappe à la porte de chacun, chacune d'entre nous, mais qu'il ne va jamais forcer la porte. Alors nous sommes libres, vous l'avez rappelé, mais qu'est-ce qui fait que on n'ouvrira pas la porte, justement. Il y a une peur d'être déplacé, d'être dérangé. C'est vrai que c'est un esprit, on a dit, hein, on sait pas d'où il vient, on sait pas où il nous emmène. Ça peut faire peur.
C'est sûr que la perspective de l'épreuve avec Jésus, de la souffrance, parce qu'elle est bien présente dans la vie chrétienne à travers la place quand même majeure de la croix, de notre foi, il s'agira de mourir à soi-même. Et c'est sûr que cette dimension-là de la mort à soi-même, cette dimension de renoncer, eh ben, on a en nous un égoïsme qui se présente. Et c'est vrai qu'il y a ce que saint Paul appelle, avec un mot un peu compliqué, la chair, et qui correspond pas au corps, justement. Le corps, chez Paul, a toute cette dimension de vie dans l'esprit, tandis que la chair, c'est ce qui manifeste selon notre égoïsme, notre capacité à résister. On voudrait, et on n'y arrive pas. Et je crois que là encore, il faut demander, il faut pouvoir en parler. Quand on regarde le baptême de Jésus, on disait que c'est important de remarquer qu'après le baptême, il y a le combat spirituel des tentations. Or, fréquemment, quand on est devant une décision importante vis-à-vis de Dieu, on se rend compte que l'adversaire, dont parlerait saint Ignace, nous met dans l'esprit la notion que si jamais on fait un petit pas pour Dieu, ça implique qu'on sera forcément déplacé, que tout va changer, qu'on va devoir quitter tout ce qu'on est. Donc, quelque chose comme faire devenir une topinière, une énorme montagne, on dit, la montagne, je pourrais jamais la gravir, donc c'est même pas la peine d'essayer de faire un premier pas. Et c'est la partie des stratégies de découragement de l'adversaire. Et parfois, on se dit, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Moi, je me souviens par rapport à la pauvreté, par exemple, j'avais vraiment de grandes craintes par rapport à la pauvreté, puisque un jour, je me suis rendu compte, mais en fait, le mot fait peur, mais la réalité, je la vis déjà. Donc pourquoi ne pas reconnaître qu'il y a des fois où on est dans notre intelligence ayant des peurs qui ne sont pas fondées dans le réel.
Pourquoi vous l'aviez déjà?
Parce que dans la vie communautaire, dans la vie de partage, déjà j'avais cette dimension d'une simplification de vie. Donc le mot pouvait sembler trop gros, cette montagne de la pauvreté, donc si je suis pauvre, j'aurai rien à moi. Puis après, en relisant ma vie, je me dis, mais en fait, je vis déjà non pas le fait de ne rien avoir, mais le fait de tout partager. Et le partage, ben, c'est déjà que rien n'est à moi. Sauf que le partage, c'est aussi que tout est à moi. C'est là que mon égoïsme est déplacé. C'est là que mes craintes de ne pas survivre parce que je me livrerai sont déplacées. Et c'est là que je me dis, mais le Dieu qui m'a déjà accompagné jusque-là, eh ben, ici, il me propose ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour moi. Et donc, la mort à soi-même qui passe, l'Esprit Saint nous aide. Mais on peut assez légitimement dire, voilà, mais j'ai peur de ce qui va m'arriver. Voilà, cette crainte du futur. Et j'ai envie de dire, c'est en relisant notre histoire passée, c'est en relisant l'histoire sainte, en regardant la vie de Jésus, qu'on peut dire, mais oui, ça, c'est ce que je veux vivre. Aimer comme Jésus a aimé, aimer comme ces gens-là ont aimé, ça, j'ai envie de vivre, ça, ça vaut la peine de donner sa vie. Et alors, comment ça va se passer? Eh bien, quand on fait le pas, on se rend compte que c'était beaucoup moins impressionnant qu'il n'y paraissait avant. Mais voilà, on a ces images intérieures qui nous font peur.
François Lestang, pour vivre à la suite du Christ, donc avec toutes les dimensions, la joie, mais aussi parfois la peine, la difficulté, nous sommes aidés par l'Esprit. Il y a une dimension d'aide. On parle des dons de l'Esprit. Alors, on peut les citer, hein, sagesse, discernement, conseil, vaillance, connaissance, crainte du Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur les dons?
On a cherché à comprendre comment l'Esprit Saint venait au secours de justement notre volonté, notre intelligence, notre discernement. Et on a repris ce texte donc, qui vient du chapitre 11 du prophète Isaïe, qui nous parle de cet esprit qui reposera sur l'élu de Dieu, le Messie, qui va recevoir donc un esprit de sagesse et d'intelligence. Et donc cette dimension-là qui vient dire que notre propre intelligence va être visitée. Donc cette alliance que Dieu fait avec nous pour que notre sagesse soit une sagesse renouvelée, notre intelligence soit renouvelée, et que, par exemple, pour le don de force, qui est vraiment important aussi, qu'on puisse avoir le courage de faire tel ou tel pas de relation, tel ou tel pas de déclaration, tel ou tel geste. Et donc là, on voit comment, dans notre quotidien, dans notre relation, et c'est là que l'Esprit Saint nous attend, on est conduit par Dieu. Donc c'est pas seulement quelque chose qui relèverait d'une connaissance de Dieu intellectuelle et théorique, même si c'est aussi là, parce que Dieu visite notre intelligence, mais c'est surtout en vue d'un agir concret. Et quand on passe chez saint Paul, il y a un très très beau texte que j'aime beaucoup dans la lettre aux Galates, au chapitre 5 de la lettre aux Galates, verset 22, où Paul oppose ce qu'il appelle les œuvres de la chair, au sens où j'en parlais tout à l'heure.
C'est-à-dire... Donc la chair, c'est le corps, mais vécu replié sur lui-même.
C'est pas seulement le corps, c'est cette capacité égoïste de résister à se livrer. C'est l'ordre de l'égoïsme, profondément. Et après, dans les listes des œuvres de la chair qui sont en Galates 5 aussi, on voit qu'il y a une dimension qui concerne la sexualité ou la gourmandise, mais que l'essentiel concerne la vie communautaire. Il parle de querelles, de jalousie, de disputes, de dissensions, d'envie. Et tout ça, c'est pas une question de sexualité, c'est pas une question de sensualité, mais c'est bien une question de comment je suis en relation ou pas. Tandis que, par opposition, il y a les œuvres de la chair, et puis il dit, il y a le fruit de l'esprit. Donc, la chair nous disperse, nous éloigne dans toutes sortes de dimensions, un peu comme ce diabolos qui jette de part à l'autre le diable, tandis que l'esprit, au contraire, nous unifie, et il dit, il y a 9 fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi.
François Lestang, vous évoquiez saint Paul dans la lettre aux Galates. L'Esprit Saint produit des fruits, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Alors, c'est automatique quand on a l'Esprit Saint en soi, on vit ces choses-là naturellement ou c'est de l'ordre du combat justement?
Il me semble que c'est de l'ordre d'une croissance. C'est semé en nous et après il faut l'arroser. Donc souvent, les dons de Dieu sont comme ça, c'est-à-dire quand on fait une retraite, à la fin de la retraite, on a toujours cette question, est-ce que tout a changé? J'ai fait l'expérience de voir qui je suis devant Dieu, j'ai fait l'expérience de comprendre ce à quoi il m'appelle, mais voilà, je vais retourner vers ma famille, est-ce que tout a changé? Et c'est sûr que ni tout a changé, ni rien n'a changé, il y a quelque chose qui est semé en nous comme ce fruit. Mais en même temps, Paul ne parle pas de la graine, Il parle du fruit, donc ce déploiement qui est visible, parce que dans l'arbre, il va y avoir la graine, puis ça va pousser, il va y avoir la fleur, et après la fleur, il y aura le fruit. Donc cet aboutissement, donc ce vers quoi nous mène l'Esprit Saint, c'est cette capacité unifiée d'être dans l'amour, d'être dans la joie, d'être
oui, mais
dans
alors,
la paix.
Justement, donc ça c'est les fruits, mais qu'est-ce qu'on met pour arroser? C'est l'Esprit?
L'Esprit lui-même nous conduit, et je crois que l'Esprit nous conduit à écouter Jésus. Donc c'est toujours ce va-et-vient, je veux dire, l'Esprit Saint nous conduit vers le Père, l'Esprit Saint nous révèle qui est Jésus, l'Esprit Saint en nous nous met en relation dans l'Eucharistie, dans toutes sortes de lieux avec ce qu'est l'Église, et donc c'est dans ces lieux-là que l'Esprit Saint va me nourrir, va m'arroser, va me conduire. Donc il y a la dimension de prière personnelle, la dimension de prière liturgique, il y a tout ce qui est fréquentation des sacrements aussi, où là encore l'Esprit Saint est à l'œuvre pour fortifier mon corps, pour que je sois intégré au corps. Et c'est vrai que dans chaque Eucharistie catholique, par exemple, depuis Vatican II, on a cette dimension de ce qu'on appelle l'invocation de l'Esprit Saint sur l'assemblée. Donc on appelle en termes techniques l'épiclèse. Pour dire que pour qu'on puisse vivre, qu'on soit rassemblé en un seul corps, il faut que l'Esprit Saint vienne nous visiter chacun. Et ça se passe dans ce va-et-vient. Donc je fréquente la prière personnelle, je fréquente la prière communautaire, je lis les évangiles, je vais dans tel ou tel groupe, et donc c'est dans ces lieux-là, dans ces lieux d'église finalement, que je vais pouvoir faire grandir et vérifier et éprouver ces fruits, ce fruit de l'esprit, amour, joie et paix. Et on le voit dans la vie de tant de saints, cette dimension de la joie. Bon, chez saint Paul en particulier, qui est un saint que j'aime beaucoup, je pense à la lettre aux Philippiens où il exprime qu'il est en prison et cette impératif, réjouissez-vous, je le dis encore, réjouissez-vous, le Seigneur est proche, n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à la prière, alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. Voilà, on est dans cette logique-là de prier à Dieu, poussé par l'Esprit, dans la confiance qui est celle de Jésus, pour pouvoir déployer ses dons et mesurer que ben on est amené à cette bienveillance, à cette douceur, à cette bonté, à cette patience, à cette maîtrise de soi, et que c'est un seul esprit qui nous unifie dans ce chemin-là d'amour.
Et l'on peut demander à l'esprit de mieux nous faire connaître justement qui est le Père, qui est le Fils, qui l'est lui-même. C'est lui qui nous introduit dans la connaissance profonde.
Ça, on le trouverait dans les discours dans saint Jean, dans les discours après le dernier repas de Jésus, donc dans les chapitres 14 à 17 de saint Jean, où de fait, Jésus explique le rôle de ce qu'il appelle l'avocat, le consolateur, ce qu'on appelle en grec le paraclet, qui est l'Esprit Saint, qui va de fait nous conduire vers la vérité de qui est Dieu. Mais cette vérité, elle n'est pas seulement, encore une fois, uniquement intellectuelle, de l'ordre du concept, mais elle est d'abord existentielle. Connaître Dieu, c'est aimer. Si on connaît Dieu, on l'aime et on peut aimer avec lui ce vers qui il nous envoie.
La vie dans l'Esprit Saint, c'est le thème de nos entretiens. François Lestang, nous continuons à parler de l'Esprit qui, dans le christianisme, est une personne au même titre que le Père et le Fils. Alors, nous évoquions avec vous les dons et les fruits de l'Esprit. Nous allons parler maintenant des charismes, parce que c'est saint Paul qui en parle dans sa première épître aux Corinthiens. C'est quoi exactement un charisme?
Le mot charisme, ça veut dire en grec un don de la faveur de Dieu, de la bienveillance de Dieu, ce qu'on appelle en termes un peu rares, un don de la grâce de Dieu. Donc Dieu nous fait grâce en nous donnant quelque chose qui est inattendu. Quand on nous fait grâce, ben on n'aurait pas mérité. Hein,
la c'est grâce, comme un cadeau alors.
Comme un cadeau. Mais depuis le XXe siècle, on a beaucoup associé charisme avec quelque chose de très particulier lié à une personne pour un moment. Et donc on parle donc typiquement du renouveau charismatique où on vivrait des dons de l'esprit. Et que c'est pas lié à une capacité que j'aurais, c'est pas mon esprit, c'est pas moi qui suis possesseur d'un don de parler en langue, d'avoir des images, de guérir, que sais-je encore. C'est toute une liste de dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Mais plus profondément, c'est Dieu le Père qui est à l'origine et ça relève de quelque chose pour lequel il faut que je puisse dire merci, puisse remercier.
Donc je ne peux pas être propriétaire d'un charisme, en tout cas me dire propriétaire d'un charisme. Alors justement, évoquons avec vous certains de ces charismes, par exemple le charisme de guérison.
Il y a cette dimension qu'on voit déjà dans les évangiles et dans les actes des apôtres, où Jésus, comme les apôtres, guérissent. Il y a de fait, à travers toutes sortes de saints et d'autres dans l'Église catholique et dans toutes sortes d'églises, cette dimension où l'Esprit Saint vient visiter telle ou telle personne pour lui donner, par la foi, la certitude que tel malade qui est devant lui va être guéri. Et de fait, on a des guérisons, et donc qui après doivent être vérifiées, contrôlées, et on a tout un chemin de discernement pour voir si on n'est pas de l'ordre d'une émotion, d'un quelque chose de passager, mais on a quand même de nombreux témoignages au long des années de véritables guérisons.
Oui, mais alors, ça a été vraiment relancé, ça, dans l'Église catholique, à partir des années 70 et du renouveau charismatique. Comment se fait-il qu'il y ait eu une sorte de vide? On en parle très peu dans les siècles précédents.
On en parle très peu parce qu'on remettait ça du côté de tel ou tel saint homme qu'on allait voir. Donc, il y avait des saints qui guérissaient.
Comme les starets, alors, en orthodoxie, alors.
Tout à fait.
Qu'on allait voir.
On parle d'un Isidore le Laboureur, par exemple, qui a guéri le fils du roi d'Espagne. Il y a toutes sortes de saints dans l'histoire de l'Église qui étaient ce qu'on appelle des guérisseurs, des thaumaturges. Donc, cette dimension-là, elle a jamais été perdue. Je crois qu'une des choses qui est venue avec le réveil pentecôtiste du début du XXe siècle et puis ensuite le renouveau charismatique qui a atteint différentes églises, dont l'Église catholique au début des années 60 du XXe siècle, c'est que c'est pas seulement pour certains individus, mais c'est pour beaucoup, beaucoup qui peuvent recevoir cette grâce de montrer à quel point Dieu est présent dans la vie des souffrants. Alors en même temps, tout le monde n'est pas guéri. L'important, c'est la conversion. La maladie guérie est signe qui pointe vers ce Dieu qui veut la vie. Mais on sait bien que les malades guéris vont mourir. Mais ils vont avoir ce temps bénéficiaire de grâce où ils peuvent dire « Le Dieu dont nous parlons n'est pas un Dieu simplement théorique, mais un Dieu qui vient visiter, un Dieu pour qui le corps a vraiment de l'importance. » Et c'est là qu'encore une fois, l'Esprit-Saint vient visiter les corps. Et je pense à la séquence de Pentecôte où on parle de « Rends droit ce qui est faussé, viens visiter ce qui est aride, renouvelle, redresse, réchauffe. » Voilà, cette dimension où l'Esprit-Saint vient visiter nos corps et pas seulement nos intelligences, pas seulement notre volonté, mais vraiment, il vient nous concilier dans toute notre humanité. Donc, qu'il y ait des dons de guérison, dont parle Paul sans y insister, parce que pour lui, c'est moins important que d'aimer, et bien, ça fait partie de ce que sont ces charismes.
François Lestang, comment sait-on si l'on a tel ou tel charisme? Qui nous le dit?
Le lieu privilégié pour vivre un charisme, c'est une assemblée. Une assemblée de prière, une assemblée ecclésiale, un lieu comme une eucharistie, où là, on se sent porté, on entend à l'intérieur, ou on voit quelque chose qu'on est porté à donner pour quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une parole de consolation, disant « voilà, je sens de la part du Seigneur quelque chose pour vous qui êtes ici, pour vous dire, vous qui traversez telle épreuve, voilà, le Seigneur veut vous rappeler qu'il est bon, ou bien je peux avoir une image d'un paysage ou une petite histoire, ou bien je peux recevoir un texte de la Bible. » Et dans ma propre expérience, les premiers moments, je sentais mon cœur qui battait à tout rompre. Puis au fur et à mesure, il y a toute une éducation de la part du Seigneur qui fait que on comprend mieux qui il est, et un souffle ténu, le souffle ténu que Élie reconnaît quand il est à l'Horeb en 1 Roi 19, finalement me suffit à connaître ça. Mais je peux m'illusionner. Parce que bien sûr, je peux vouloir, je vois d'autres qui donnent des paroles qui sont tellement importantes, donc je veux dire, mais moi aussi, je veux donner une parole comme ça. Et donc on pourrait s'illusionner. Et donc l'important, d'être en assemblée pour que d'autres puissent me dire « Ben oui, ce que tu dis, de fait, ça nous aide à connaître Dieu. »
Oui, donc c'est l'autre qui est important, c'est pas pour moi ce charisme, c'est pour faire grandir ceux qui m'entourent. Alors, on va parler du parler en langue, parce que Saint Paul en parle, justement, parmi les charismes. C'est quoi le parler en langue?
Alors, pour ce qui est du parler en langue, on peut dire qu'il y a dans l'Écriture à la fois une dimension du chant en langue et du parler en langue. Et qu'il y a, entre les Actes des Apôtres et Paul, des nuances entre ce qu'on comprend. Dans les Actes des Apôtres, on a l'impression qu'il s'agit de parler une autre langue humaine. Donc, acte 2, le texte qu'on lira le dimanche de Pentecôte, nous rappelle que chacun entend dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Donc, proclamer, donc là, on parlerait, je parlerais soudainement papou ou chinois ou monokotuba, si je parle une langue africaine. Voilà, soudainement, moi qui ne les connais pas, l'Esprit-Saint me donnerait de parler dans une autre langue.
C'est ce qui se passe à la Pentecôte.
C'est ce que Luc raconte de ce qui se passe à la Pentecôte. Chez Paul, on est dans une langue de type angélique que personne ne comprend. personne ne comprend sauf Dieu et sauf l'Esprit qui prie en moi. Et donc il y a quelque chose où je livre mon corps, je livre mes lèvres, mes cordes vocales, mes poumons, mon souffle, je laisse le souffle de Dieu habiter en moi et venir jubiler, parfois par des murmures. Il y a un texte qui est disputé, mais pour moi qui est important, qui est Romains 8, où Paul dit « L'Esprit Saint parle en nous par des gémissements ineffables ». Alors, ineffables, il n'y a pas de parole, mais gémissements aussi. Donc, cette dimension-là d'un parler qui est en même temps au-delà du langage, ou parfois en deçà du langage. Et les études qui ont été faites par les linguistes qui ont étudié l'ono-charismatique ou les pentecôtistes peuvent dire que ceux qui parlent en langue, aujourd'hui, ça m'arrive, ne parlent pas une autre langue, mais ils sont en train d'exprimer une louange. Et pour moi, ce qui est assez signifiant de ça, c'est quelque chose comme le chant des moines, le chant du grégorien, ces mélopées des Alléluia qui durent, qui essaient d'exprimer la joie de connaître Dieu, la joie d'être en Dieu, et donc de laisser le souffle en moi se déployer d'une manière parfois inattendue. Et donc, c'est ça qui se joue. Donc, Paul parle d'une prière en langue, où l'Esprit Saint vient prier en moi, parle d'un chant en langue aussi. Par contre, il ne connaît pas apparemment ce que beaucoup de groupes de prière vivent, d'un chant communautaire. Pour lui, c'est chacun son tour. C'est chacun son tour qu'on a un chant ou une prophétie et que ce chant, après, doit être interprété pour que tous puissent être édifiés.
Donc vous, par exemple, vous avez ce don de don en langue. Tout le monde ne l'a pas au sein de votre communauté ?
Je suis pas sûr que tout le monde, non, ait le don. La très grande majorité des frères et sœurs de ma communauté ont ce don du chant en langue, mais je crois que certains ne l'ont pas, et que la vraie question n'est pas celle-là, mais celle de l'amour. Et en même temps, je sais que dans notre dimension d'un déploiement des charismes, donc d'une vie dans l'esprit, d'une écoute de ce que Dieu veut faire, c'est une porte d'entrée très importante.
C'est-à-dire, pourquoi c'est une porte d'entrée?
Parce que c'est un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise pour que je laisse Dieu faire alliance avec moi dans mon corps, dans mon souffle, dans mon intelligence, et j'accepte que Dieu soit présent. Et donc, il y a quelque chose de cette « j'ouvre la porte ». D'ailleurs, on peut dire « il faut qu'il rentre », mais là, je le laisse vraiment être uni à moi, et donc un esprit uni à notre esprit, dirait saint Paul aussi. Et donc, c'est ça qui se passe quand j'accepte qu'il parle en moi, qu'il vive en moi, mais c'est toujours moi. Et là où c'est très impressionnant pour moi aussi, c'est que il y a des fois, je vais pas bien spirituellement, ça peut arriver même à un prêtre. Et donc là, je chante pas en langue. Je sens bien qu'à ce moment-là, je résiste à chanter en langue. Mes frères et sœurs chantent en langue, mais il n'y a pas de nécessité. Il faut que j'ouvre mes lèvres. Seigneur, ouvre mes lèvres. Mais il faut que ce soit moi qui les ouvre. Si je dis non, eh ben, ça passera autrement ou ça ne passera pas comme ça. Mais il y a cette pleine liberté qui est la mienne et cette pleine adhésion à ce que Dieu veut faire en moi. Et je dis oui. Et disant oui, alors, il y a quelque chose qui peut se déployer de l'ordre d'une image, de l'ordre d'un texte, de l'ordre d'un chant, de l'ordre d'une affirmation que Dieu est là.
Donc l'image aussi, ce serait un instrument de musique qui serait vous, et vous laissez traverser par le souffle. Parfois, l'instrument est ouvert, parfois il est fermé.
Oui, un peu ça, mais l'instrument là est très passif. Tandis que ce qui est important pour moi, c'est de dire on n'est pas dans une logique de possession où l'Esprit Saint viendrait prendre place, et c'est lui qui parlerait à ma place, donc dans une transe. Mais au contraire, l'Esprit Saint travaille avec ce que je suis. Pour moi, c'est assez important d'avoir vu que, au départ, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la Bible. Donc, les premiers charismes que j'ai reçus, c'était d'abord de pouvoir chanter en langue et puis de donner des textes. Donc, chanter, j'aimais beaucoup. Mais au fur et à mesure, dans mon humanité, l'action de la peinture et de la sculpture s'est aussi beaucoup déployée. Alors que c'était pas quelque chose qui m'intéressait au départ. Et à ce moment-là, dans la mesure où j'étais plus attentif à la peinture et à la sculpture, j'ai commencé à voir des images aussi, telle ou telle scène, telle ou telle image. Et donc, Dieu qui vient visiter ce que je suis. Et donc, si je ne voyais pas, si j'étais pas attentif, moi, à la peinture, s'il n'y avait pas cette nature en moi, eh ben, la grâce va pas la remplacer. On a ce très bel adage de saint Thomas que j'aime tellement citer, saint Thomas d'Aquin. La grâce ne supprime pas la nature, elle l'accomplit.
Nous refermons avec vous, François Lestang, notre dialogue au sujet de l'Esprit-Saint, figure trinitaire, force de vie et d'amour. Alors nous évoquions avec vous les charismes développés dans l'Église. Vous parliez notamment du chant en langue, du parler en langue dont parle saint Paul. À vous écouter, je me dis, mais quand même dans les paroisses, dans n'importe quelle paroisse, là dans une ville de France, on ne trouve pas ce genre de charisme.
Non, je crois qu'il y a une question de prudence aussi de la part des pasteurs. Parce que quand on entend une prophétie ou un don des langues, on dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ça, déjà saint Paul, dans le chapitre 14 de la première aux Corinthiens, dit « mais si vous parlez tous en langue, que quelqu'un rentre dans l'assemblée, il va dire « ils délirent, ils sont fous, tous ceux qui sont là. Et c'est sûr que cette dimension-là, quand on est soi-même sensible, attentif ou réceptif, on peut dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et on peut donner le bénéfice du doute. Mais sinon, on va dire, bah voilà, on a affaire à un groupe. Et je sais que beaucoup, quand ils débarquent dans un groupe de prière, ils se disent, mais ils sont fous.
Oui, voilà. Ou c'est une secte.
Ou c'est une secte, voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui est incompréhensible. Et c'est pour ça que saint Paul insiste tellement sur le fait de pouvoir manifester par des paroles intelligibles ce qui se vit. Et pourquoi, après une parole en langue qui serait personnelle, il faut vraiment qu'il y ait une interprétation. Alors, pourquoi est-ce que les pasteurs ont aussi une prudence? Parce qu'on sait bien que le psychisme humain est fragile. Et qu'il peut y avoir toutes sortes de débordements, et malheureusement, l'histoire de l'Église, y compris récente, est pleine de ces exemples où les gens se pensent en ligne directe avec Dieu, en oubliant que l'essentiel de ce que Dieu veut, c'est la relation à l'autre. Et donc, cette supériorité de se croire pneumatique, d'avoir le lien à Dieu, moi je connais Dieu, en oubliant que c'est une grâce, en oubliant que c'est toujours un cadeau, en oubliant que ça n'a comme fonction que de me renvoyer vers les autres, Paul dit, ces dons-là sont faits pour l'utilité commune. Et souvent, de fait, mon égoïsme, ma chair, peut faire que je remets la main sur le charisme et je me prétends possesseur de tel ou tel don, alors que je suis intendant du don que Dieu me fait. Intendant, ça veut dire aussi qu'il y a tout un travail dans la vie charismatique de discernement, d'affinement, d'écoute. Il y a comme une école aussi où on apprend de plus en plus à être sensible à ce que Dieu veut donner. Je pense à cette question des parole de connaissance, on n'en a pas parlé.
C'est quoi avoir une parole de connaissance?
Dans la terminologie du renouveau charismatique en France, c'est de pouvoir dire à un moment qu'il y a une personne dans l'assemblée qui a telle ou telle pathologie dans son histoire, donc ça peut être un accident de voiture, ça peut être une souffrance musculaire, ça peut être une question aussi de relation dans son histoire qui la blesse et qui l'handicape fortement, et qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de la guérir et que la personne ressent tel ou tel élément. Donc, on va avoir des gens qui vont être visités dans leurs poignets, visités dans leurs yeux, dans leurs oreilles, visités dans leurs poumons. Et donc, quelqu'un peut donner une parole comme ça. Mais une parole comme ça, moi, je pourrais l'inventer. Et donc, la question, c'est comment être attentif et comment vérifier après qu'il y a bien eu quelqu'un qui l'a reçu. Mais ceux qui déploient ce charisme-là, finalement, au fur et à mesure, ils arrivent à comprendre ce qui est reçu et ce qui n'est pas reçu. Et donc, il y a toute cette école, cet affinement pour déployer vraiment ce que Dieu veut montrer dans son Église, c'est-à-dire qu'il est vivant.
Paul, en tout cas, dit que ça n'est pas forcément l'important, puisqu'il dit « j'aurais beau parler toutes les langues de la terre, j'aurais beau avoir les plus grandes prophéties, j'aurais beau avoir la foi qui dépasse les montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien ». Donc tout ça est secondaire finalement, c'est l'amour.
Ah oui, vous avez absolument raison. Ce qui est le plus important, bien sûr, c'est l'amour. Mais ces dons-là, je crois, manifestent aussi la tendresse de Dieu pour son Église. Où c'est pas justement un Dieu qui serait uniquement intellectuel, abstrait, mais Dieu qui vient visiter nos corps, nos cœurs, notre sensibilité. Dieu n'est pas loin de ce que nous sommes. Il se rend présent et il nous rend présents les uns aux autres. Mais vous avez absolument raison. Pour Paul, le seul critère qu'on a reçu l'Esprit Saint, ça n'est pas le don des langues ou le don de la prophétie. Le seul critère d'avoir reçu l'Esprit Saint, c'est d'aimer comme Jésus a aimé, c'est-à-dire en se faisant petit, en se livrant, en s'abaissant volontairement. C'est ça qui manifeste qu'on a reçu l'Esprit Saint et rien d'autre.
François Lestand, nous allons terminer nos entretiens avec la Pentecôte, parce que c'est un épisode très important dans les Actes des apôtres. On dit que c'est la naissance de l'Église quand l'Esprit-Saint est répandu sur tous les apôtres. Ça a été mis beaucoup en image avec les petites langues de feu sur chacun d'entre eux, sur Marie. Qu'est-ce que ça signifie, la Pentecôte?
La Pentecôte, c'est ce moment donc, où Jésus avait promis à ses disciples qu'ils allaient recevoir une force venue d'en haut pour être témoins. Et donc, en ce sens, on peut dire que l'Église, je pense qu'elle naît déjà à la croix et à la résurrection, mais elle est manifestée à l'extérieur le jour de la Pentecôte. Un peu comme Jésus qui a ses 30 ans de vie cachée à Nazareth et qui, le jour du baptême, est manifesté à Israël et qui va commencer à proclamer que le royaume de Dieu est proche et que les temps sont accomplis. En un sens, la Pentecôte est le moment où Dieu dit à la face de tout Israël, les temps sont accomplis, la promesse de l'Esprit que les prophètes avaient reçue, elle est maintenant donnée, pas seulement aux 12, mais aussi aux 120, puisqu'il y avait tout un groupe qui était avec la communauté qui croyait en Jésus. Mais voilà, il y a ces 50 jours de préparation à recevoir ce qui nous rend capables d'un témoignage. Et donc, en ce sens-là, c'est une naissance de l'Église, mais vers l'extérieur. Et donc, c'est cette naissance de l'Église pour qu'on puisse témoigner d'un Dieu qui est agissant dans la résurrection. Et c'est vrai que c'est un seul et même mystère qui unit Pâques et Pentecôte. Pâques, la résurrection, on avait dit que dans Saint Jean, le soir même de Pâques, Jésus souffle sur les disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et on a envie de dire que nous, on le déploie sur 50 jours avec Saint Luc pour aller d'une fête à l'autre, pour que tous puissent entendre que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui donne la vie. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'on affirme de l'Esprit Saint qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie.
Quel est l'enjeu, au fond, de cette fête de Pentecôte ?
L'enjeu pour nous, c'est justement d'accueillir cet appel à témoigner d'un Dieu qui vient visiter nos corps et nos cœurs, qui vient nous faire brûler d'une joie et d'une vie, et qui est là pour nous unir. Alors oui, c'est un envoi vers toutes les nations pour, si on prend le texte de la Pentecôte, nous les entendons dans nos propres langues proclamer les hauts faits de Dieu. Oui, Dieu est à l'œuvre en ce temps aussi, et chaque Pentecôte, c'est l'occasion de se dire, voilà, comment est-ce que moi, je vais pouvoir proclamer les hauts faits de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai entendu dans ma vie de ce que Dieu a fait? Ou bien, où est-ce que j'ai besoin que Dieu fasse des choses extraordinaires dans ma vie ou magnifiques? Sachant que, je parle d'extraordinaire, mais que l'essentiel, c'est bien sûr l'amour. L'essentiel de ce que veut faire l'Esprit Saint, c'est que je puisse aimer. Et on voit bien le témoignage que tant d'hommes et de femmes dans nos églises portent par le fait qu'ils ont le souci du plus pauvre, le souci du plus petit, le souci de celui qui est à l'extérieur, aux périphéries. Donc cette Pentecôte nous renvoie aussi vers cet appel à aimer, et nous sachant qu'on a pour aimer une force qui vient de Dieu, et force qui n'est pas seulement de l'ordre d'une puissance qui me serait donnée, mais un allié qui est Dieu lui-même, sous cette personne qu'est l'Esprit Saint, Esprit de Jésus, pour que je puisse aimer comme Jésus a aimé.
Vous parliez des périphéries, l'Esprit dépasse les frontières de l'Église universelle, il est présent dans le monde d'une manière inconnue. On ne peut pas enfermer l'Esprit Saint, selon vous ?
Je pense que le livre de la Sagesse nous dit « L'Esprit du Seigneur remplit l'univers ». Et c'est un des versets qu'on utilise pour la fête de Pentecôte, une des antiennes qu'on emploie pour dire à quel point Dieu est présent au-delà des limites visibles de l'Église et sa grâce travaille beaucoup de cœur. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire quand on peut faire connaître précisément qui est le Dieu d'Israël qui s'est manifesté en Jésus, quel est le Dieu de la Bible qui, dans le Nouveau Testament, nous donne tellement de choses. Donc oui, il agit au-delà des frontières visibles de l'Église, il agit dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde, et en même temps, il les appelle à s'agréger à ce corps qu'est l'Église, à ce corps. Et c'est bien ça aussi, que cette dimension de l'Esprit qui est donnée pour que le corps existe, voilà, l'Esprit permet au corps de Jésus d'advenir. Et c'est ça aussi la Pentecôte, permettre que de toutes les nations, on puisse se retrouver partageant la même vie, partageant le même amour, partageant cette joie commune en Jésus.
Mais est-ce qu'il faut pour autant devenir chrétien ? Parce que j'ai en mémoire Mère Teresa qui renvoyait les hindous à leur propre tradition, ou Sœur Emmanuelle en Égypte, qui renvoyait les musulmans à leur propre tradition. Est-ce que l'Esprit souffle dans les autres traditions religieuses ?
La question est difficile. Moi, je dirais que de mon côté, la tradition que je connais le mieux, c'est le judaïsme. Et j'ai pas de doute que dans le judaïsme jusqu'à aujourd'hui, dans le chassidisme comme dans d'autres expressions de la vie juive, oui, le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le judaïsme. Après, je connais un peu toutes les questions que ça pose dans le dialogue interreligieux. J'ai envie de dire que Dieu soit à l'œuvre dans ce monde, dans le cœur des hommes, je le crois. Qu'il y ait un davantage à croire en Jésus, je le crois aussi, mais que c'est vrai que d'abord, il y a ce chemin d'approfondir le chemin que Dieu m'a donné. Donc aujourd'hui, quand je parle à mes amis juifs, je suis très heureux qu'ils soient juifs. Et donc je ne vais pas demander aujourd'hui à un juif de croire en Jésus, mais en même temps, c'est important pour moi de pouvoir dire pourquoi je crois en Jésus. Donc cette dimension du témoignage, elle n'est pas, c'est le mot terrible de prosélytisme, mais elle est cette dimension de pouvoir dire le Dieu auquel je crois est un Dieu formidable, merveilleux, et voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Après, voilà, je suis sûr qu'en toi aussi, Dieu fait des choses extraordinaires, et ça vaut la peine que tu me les partages. Cette dimension du dialogue interreligieux est très importante. Mais si le dialogue veut dire ne plus pouvoir dire à quel point Dieu est merveilleux, ben ça serait dommage, y compris pour l'autre. Donc, non, je ne cherche pas la conversion, mais je ne cherche pas non plus à taire à quel point Dieu est merveilleux et fait des choses extraordinaires dans l'Église et dans nos vies.
On peut demander, à l'occasion de la fête de la Pentecôte, un renouvellement peut-être de voir, de mieux percevoir ce qu'est l'amour finalement, au fond, dans nos vies.
Oui, tout à fait. On peut demander cette grâce particulière, ce charisme, ce cadeau de Dieu, de se dire, demain, dans le lieu où je suis, dans ce lieu d'église, dans ce lieu familial, dans ce lieu de travail, finalement, comment laisser Dieu aimer en moi par son esprit, comment l'aider à me mettre en relation pour que le corps qu'il veut faire dans ce monde puisse prendre de plus en plus de concrétude, d'existence et que je puisse aimer comme Jésus a aimé.
Merci à vous François Lestang d'être venu nous parler de l'esprit. Je signale que vous êtes l'auteur de 2 livres. Ce que dit la Bible sûre, c'est une collection à laquelle vous avez participé 2 fois, des livres parus chez Nouvelle Cité. Ce que dit la Bible sur la nuit et ce que dit la Bible sur le chant. Merci à Antoine Picot à la réalisation.